si je vous dis le fleuve gelé, si je vous dis de l'eau, encore de l'eau, et puis tout à coup, de la glace qui déboule en masse comme ça, un de ces glaciers énormes, qui ressemble d'ailleurs dans ma mémoire au Perito Moreno, mais qui est un autre glacier que vous avez rencontré ailleurs, de l'autre côté des Andes, c'est-à-dire non pas dans un lac, mais dans la surface d'eau la plus magique du monde, la plus grande. Je pense à Magellan, 1522, et vous rongez du cuir, vous êtes en train de vous dire qu'il y a une distance inconnue devant vous, vous êtes ce glacier qui avance dans l'eau, vous êtes dans une mer qu'on appelle la mer du Sud, et puis ce jour-là, parce que vous étiez Magellan, parce que vous étiez au bout du cône Sud, parce que vous veniez de passer, de trouver ce détroit extraordinaire, vous allez en faire le Pacifique. Comment avez-vous rencontré ce Pacifique et comment avez-vous pu suivre cette voie d'un glacier magique lui aussi qui plonge comme cela dans l'eau? Quand on s'appelle Olivier Fulmi, ça paraît normal puisque j'ai parlé de fleuve gelé au départ. Mais tiens, je me reprends là. Je sais depuis quelques minutes que votre première passion a été la mer et non pas la montagne. On y est là? On passe du Pacifique au glacier. Long cours, Olivier Fulmi. Olivier Fulmi, la mer, le Pacifique, il y avait une question, je l'ai laissée juste à la hauteur du glacier, au moment où le sérac tombe dans l'eau, et vous voyez encore ce mouvement de l'eau, c'est le Pacifique, et pourtant la glace, le mur de glace est tellement haut, allez, c'est à vous.
Merci, c'est vrai que vous me jetez à l'eau comme ça, il est vrai que je me suis jeté aussi à l'eau pour cette expédition que je devais faire au nord de la Patagonie, donc vraiment au sud du Chili, un peu au bout du monde. Et c'était une expédition que je devais faire pour gravir un des sommets le plus haut, enfin le sommet le plus haut de la Patagonie. On devait se faire déposer par un bateau, un petit navire, pour arriver au pied d'un glacier. On s'est fait déposer pour établir notre camp de base après 18 heures de navigation dans les fjords du Pacifique. Et on nous a déposé au pied de ce glacier, on a établi notre camp de base. Et de là, on est parti à pied, évidemment, dans la forêt, pour arriver près des glaces, pour longer les moraines le long du glacier et rejoindre ce que l'on appelle le Yellow Continental North, c'est-à-dire c'est la calotte glaciaire qui prolonge l'Antarctique. On devait arriver jusqu'à cette calotte glaciaire pour ensuite marcher jusqu'au pied du sommet qu'on devait gravir. Et tout ça, eh bien, cela prenait à peu près 5 camps normaux, 5 jours pour arriver au pied du sommet avant de pouvoir attaquer la montagne que l'on voulait gravir. Voilà ce que j'allais faire là-bas.
Je vais être un peu taquin, c'est vrai que pour moi, il n'y a que quelques minutes que je connais quelques photographies qui me rappellent des souvenirs éblouissants de ce cône sud. Ce sont les vôtres, bien sûr, ce sont vos photographies pour ce dernier ouvrage dont nous allons parler pendant une heure, Terre de sel, Terre de gel. Et j'avoue que j'ai évoqué tout à l'heure peut-être le livre dont on a le plus parlé de vous, c'était le fleuve gelé. Et j'aimerais juste vous demander d'abord de situer. J'aime les coups de cœur et vous êtes un peu un coup de cœur. J'ai parlé avec plusieurs personnes aujourd'hui de vous parce que je trouve que le meilleur moyen de connaître quelqu'un, c'est d'écouter les autres ou d'écouter la personne elle-même, ce qu'on est en train de faire. Et j'ai commencé à l'envers. J'ai d'abord voulu savoir par d'autres qui vous étiez et on m'a donné une image qui est une image de voyage dans l'idée du déplacement qui est une image où le cœur a toujours beaucoup d'importance. Et puis il y a un nom, il y a une photographie que nous avons d'ailleurs vu dans certains journaux, dans certaines publications, où vous êtes en compagnie d'un jeune homme qui n'a pas l'air très occidental, et je crois qu'il s'appelle Ang Phurba, et qu'il vous a accompagné ailleurs dans le monde. Et puis, j'ai pas, entre votre regard et le sien, ou plutôt entre vos deux regards et le troisième, ou même le quatrième, parce que je crois qu'il y a même deux photographes à l'autre bout, pour prendre une photo, c'est vous dire, hein, quand il faut prendre Olivier Felmy en photo, il faut être deux. Eh bien, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui passe par votre côtoiement, et qu'il y a un voyage précédent. Je ne m'avance pas, c'est un Sherpa, bien sûr, et c'est un Sherpa qui vient d'ailleurs et que vous avez un peu transplanté comme cela en Patagonie.
Complètement.
Se trouver devant le mont
Saint-Valentin
avec un Sherpa qui n'est pas andin, ouais. Ça a dû être un moment assez curieux. C'est magnifique. Un autre voyage pour lui. Et ça, j'ai beaucoup apprécié, simplement dans ce cliché, dans ce petit déclic.
C'est vrai, c'est très bien vu, voir que, en fait, pour Angkor Wat, c'était aussi un deuxième voyage. C'était pas non seulement aller gravir un sommet au fin fond de la Patagonie, mais c'était quitter le Népal. Et il est vrai que Angkor Wat, c'est un ami que je connais depuis plus de 10 ans maintenant, qui vient du Népal, de la région de l'Everest. Donc, il fait du trekking dans l'Himalaya depuis plus de 10 ans. Je voyage avec Angkor Wat toujours dès que je suis dans l'Himalaya, parce que Angkor Wat m'aide énormément dans mon travail de photographe, il m'assiste toujours. Et là, eh bien, j'avais ce gros projet à réaliser qui était de photographier cette expédition qui allait gravir le Saint-Valentin. Et j'avais demandé à Angkor Wat de venir m'aider. Et en plus, je savais que pour lui et pour moi, ce serait un voyage splendide de par le fait qu'il y avait cette connivence entre nous. Et ça rajoutait aussi une étincelle à ce voyage, dans la mesure où Angkor Wat découvrait un autre continent. Il avait une fierté sans nom de venir en Patagonie, parce que c'était le premier Sherpa à aller aussi loin. Mmh. Et c'était en quelque sorte un deuxième voyage.
Et comment est-ce qu'on débute un voyage avec un Sherpa comme lui? Parce qu'il y a eu une première rencontre, votre premier déclic par rapport à cette personne qui en fait va tout à coup devenir un beaucoup plus long voyage que vous l'imaginiez à la première
seconde. Bien sûr, enfin c'est en même temps c'est l'aventure de la vie, c'est qu'on engendre une amitié quelque part, parce qu'il y a un coup de foudre avec quelqu'un, il y a une amitié qui naît et puis on ne sait pas où ça mène. Mmh. Et Angkor Wat, je l'ai connu au Zanskar et on guidait un groupe ensemble. Depuis, eh bien, même quand je repartais seul au Zanskar dans l'Himalaya, j'étais avec Purba et son beau-frère Angnor Bu, et nous avons toujours conservé cette amitié, parce qu'au-delà du travail que nous faisions ensemble, il y avait une espèce de connivence, comme vous le disiez très, très justement en regardant la photo. Il y a une amitié de 10 ans qui s'est forgée et qui est là, qui est indéniable.
Oui, parce que disons, moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'involontairement, j'ai pris votre voyage en route, c'est-à-dire ce livre, même avant qu'il sorte, avant qu'il soit physique. Mais au fond, on parle d'Olivier Felmy, puis je me suis dit, mais c'est vrai que sur la chaise d'à côté, on a quelques amis, mais où est-il maintenant, à cette seconde? Dites-le-moi, où est-ce qu'il voyage? Qu'est-ce qu'il fait? Il est retourné? Il est complètement dans son...
Angkor Wat, en ce moment, il est au pied de l'Everest. Et il est avec sa famille parce que c'est une saison morte pour le tourisme. Donc, il ne voyage pas, il ne guide pas de groupe. Et là, il est retourné auprès de sa famille, près de Namche Bazar, à Tamé. Et il est au pied de l'Everest.
Où l'avez-vous lâché? Je veux dire, parce que
je l'ai lâché à Paris.
Voilà. J'aimerais simplement qu'en Patagonie, où nous allons retourner, bien sûr... Oui. Ou plutôt dans cette Patagonie-là, on puisse la raconter aussi au Népal. C'est-à-dire que ce qui est fascinant dans l'histoire, c'est qu'il y a maintenant un morceau de Patagonie qui se promène
au Népal
et qui raconte sa Patagonie.
Tout à fait.
Et pas du tout comme vous le faites avec des images et un livre.
Tout à fait.
C'est peut-être le côté qui m'a le plus fasciné, parce que c'est la première photo du livre que j'ai remarqué.
Parce qu'il faut voir que Angkor Wat est venu en Suisse lorsque je terminais le spectacle en multi-images que j'avais donné au mois de novembre. Et Angkor Wat est donc venu les derniers jours avant de partir en Patagonie pour qu'on puisse se préparer à cette expédition, qu'on puisse acheter le matériel nécessaire aussi. Et ensuite on est parti, on a volé sur Paris, ensuite sur Santiago de Chili. Et pour Angkor Wat, c'était déjà extraordinaire d'être en Europe. C'était un voyage dont il avait toujours rêvé.
Il n'était jamais venu en Europe.
Il était venu une fois.
Si.
Il était venu une fois il y a 2 ans. Et là, eh bien, il venait ici comme tremplin pour partir encore plus loin. Et jamais il n'aurait pensé que le voyage soit si long jusqu'à Santiago. Et c'est vrai que c'est un très long voyage, on a près de 22 heures de voyage. Et arrivé au Chili, il a été un petit peu déstabilisé. Parce que jamais, jamais il a cru qu'il se sentirait aussi loin de chez lui.
Vous savez qu'il a les oreilles qui sifflent en ce moment. Décidé que nous ferions, mais je n'ai rien décidé du tout pendant cette heure, c'était voyager. Or, j'ai rétréci. Maintenant, notre troisième partenaire est là-bas. Il nous écoute mentalement, mais je voulais qu'il soit là. Et en deuxième instance, j'ai tout à coup un quatrième partenaire de voyage. C'est un livre. Or, c'est vrai qu'un livre, c'est déjà un voyage. D'abord pour le créer, ensuite pour le monter. On ne parlera pas de toutes ces techniques, mais je sais que vous êtes derrière aussi, parce que j'ai remarqué à quelque part que le maquettiste, c'était aussi un peu vous. Je veux dire, c'est un bébé, on doit aller jusqu'au bout d'une publication.
On le façonne ensemble, oui, bien sûr.
Et j'ai simplement envie qu'on s'arrête. Quand on parle de vous, il y a une chose qui m'a toujours étonné, c'est qu'on vous fasse autant de publicité parce que vous n'en demandez pas et que vous n'en avez pas besoin. Je vais m'expliquer.
Si j'en ai besoin.
Si, non, bien sûr, tout le monde en aurait besoin. On est en train d'en faire, volontairement ou volontairement. Mais je veux dire par là que ça m'appelle des phrases. Là, je pense à Don Juan, là, c'est mon côté mexicain ou un peu Castañeda qui ressort. C'est que les gens qui ont un chemin qui a du cœur n'ont pas de problème, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé un chemin, on ne cherche pas son chemin, on le trouve. On parlait de la mer tout à l'heure, vous êtes arrivé à la montagne, vous avez une trajectoire, mais au fond, il y a quelque chose qui surprend, je ne suis pas là pour vous passer de la pommade, c'est votre sincérité dans le travail. Et le travail de photographe, une photo de Fermi, je crois qu'elle surprend toujours, parce que j'ai ouvert le livre n'importe où, là, il est devant moi, il y a un homme qui peine dans le brouillard, et bizarrement, c'est de nouveau notre troisième homme, et il y a une ambiance dans cette photographie, et la photo n'a absolument pas besoin d'avoir un commentaire que vous avez mis ailleurs. J'ai simplement retenu que c'était ce personnage-là, mais ça pourrait être n'importe qui. Il peine dans ce brouillard, on voit qu'on est dans un glacier, dans une région difficile, et il y a toute une interprétation autour de l'image. Et au fond, c'est ça votre publicité jusqu'à maintenant, c'est que vous avez fait de manière artistique, de manière sentie, de manière... je parlais de cœur, de manière sensible, votre métier, qui est devenu ainsi une sorte de force par l'impact cœur qui ressort dans vos images.
Je crois que... je pense qu'avant tout, c'est de la passion. C'est pas... Moi, j'ai pas de message à transmettre. J'ai simplement quelque chose que j'adore, c'est photographier. Et puis, c'est photographier les... C'est vrai que j'aime photographier l'authenticité. Dans le sens où le vécu, si vous voulez, quelque chose, j'aime photographier l'émotion. Quelqu'un qui peine, j'aime essayer de trouver l'image qui va mettre en valeur la difficulté d'une ascension, la peine, la joie, la tristesse, le bonheur. Et je ne sais pas ce que je recherche à travers mon travail, mais j'aime la beauté d'une image, la sobriété. Je ne cherche pas à développer un style, mais je crois que tout ce que vous dites, bon, peut-être que c'est vrai, je ne sais pas, mais avant tout, que je sais, c'est de la façon dont je travaille et j'aime travailler de façon passionnelle. Ça me, jamais je n'ai ressenti comme une corvée d'aller photographier, de me lever à l'aube s'il le faut, de rentrer très tard fatigué, à bout le soir. J'ai jamais vécu ça comme quelque chose d'astreignant, jamais. Pour moi, c'était toujours une force, enfin, ça me procurait toujours de la force que de photographier.
Vous en parlez depuis quelques secondes, mais vous avez commencé par quelque chose qui est justement déterminant et qui rejoint totalement l'idée qu'on s'en fait, c'est que vous avez dit que vous n'aviez pas de volonté de créer une méthode, un chemin ou de démontrer quelque chose. Et je
Non.
crois que tout est là. Parce qu'au fond, ce qui est impressionnant dans une photographie d'un ouvrage, il y en a plusieurs, je les ai même écrits sur un bout de papier, c'est vrai qu'on est déjà obligé d'arriver en tout cas jusqu'au numéro 8 pour faire le tour de vos publications. Et elles se sont faites d'elles-mêmes. Et chaque fois que je les ai observées ou feuilletées, j'ai senti ce côté simple. C'est la simplicité qui nous surprend. Et au fond, je vais vous poser une question à l'envers. Par rapport au voyage, est-ce que vous vous rappelez d'avoir cherché une photo?
D'avoir cherché une photo, comment
Parce
ça?
qu'il y a des photographes qui cherchent la photo.
Là,
Quelle est votre
sur le terrain?
photo? Quelle est votre photo par rapport à quand même quelques années de métier? Parce qu'on apprend petit à petit soi-même, et puis tout à coup on se dit, est-ce que ça c'est une... C'est-à-dire, c'est la façon que vous auriez de donner un compliment à votre propre ouvrage qui
Ah,
m'intéresse.
la photo, oui, j'ai une photo, mais elle est dans ma tête. Elle est dans mes yeux, je l'ai vue, je l'ai jamais prise. J'ai vu une image devant moi et peut-être que j'aurais été déçu de la photo que j'aurais prise, mais
On
ce
peut
que
la
j'ai
voir
vu,
à l'antenne?
c'était une petite fille, c'était aux Oscars, c'était une petite fille qui, on était le soir dans la pénombre, dans une pièce, et une petite fille qui était magnifique, elle tenait une lampe à beurre dans sa main. Et elle est partie dehors, elle a quitté la pièce, et au moment de passer le porche en bois, elle s'est retournée pour nous demander quelque chose. Et cette lueur qui lui éclairait le visage avec ce regard qu'elle avait, et c'est la beauté de cette fillette, elle avait un rayonnement extraordinaire. Ça en a fait une image qui tout d'un coup, pour moi, c'était un flash, une illumination. Et j'ai gardé cette image en tête comme la plus belle des photos enfin, que je n'ai jamais faites, mais que j'ai vues en tout cas.
Je joue sur les silences, mais ça me rappelle aussi quelque chose de ce livre dont on parle, sur la Patagonie. Et il y a une série de 9 photos avec justement des portraits d'enfants dans des petits villages qui se trouvent naturellement près du désert d'Atacama,
Dans
parce
le
que
nord,
vous avez
oui.
commencé par le sel, c'est donc ce nord du Chili, on finira dans la glace, c'est bien sûr l'ascension dont on a encore un peu le temps d'en parler, mais l'heure tourne. Mais c'est peut-être la première fois que je vois autant de portraits d'enfants dans un ouvrage d'Olivier Feulmy. Vous étiez pour... Il y avait un côté plus caractériel. Et attention, quand je dis caractériel, c'est vraiment dans le sens du terme, hein. La recherche de quelque chose qui est volontaire chez vous, de trouver des personnages mûrs, burinés, qui ont déjà une histoire et des chemins différents. Et là, tout à coup, il y a cette illumination de... Je crois qu'ils sont majoritaires, d'ailleurs. Il y a plus d'enfants que d'adultes dans ce livre, mais des enfants qui sont...
Oui, c'est vrai, parce que bah, vous savez, il faut. Moi, mes photographies, mes livres, ce n'est pas une recherche, c'est-à-dire c'est le fruit d'une aventure et c'est le fruit d'une maturité. Donc, moi, j'évolue, j'ai commencé mon travail à quoi, à 20 ans, j'ai 33 ans maintenant. Mes livres maintenant ne peuvent pas ressembler à mes premiers livres, c'est normal.
Ah, c'est pas ce que
Et
j'attendais.
non, mais c'est que auparavant et aux Oscars, j'ai toujours été fasciné, et je le reste toujours, par les personnes âgées qui détiennent et de qui il émane une sagesse. Et ça m'a toujours bouleversé. Et je crois que aux Zanskar, c'est avant tout ce qui m'a marqué. Et c'est peut-être pour ça que j'ai commencé par photographier ces gens-là. Et maintenant, eh bien, j'ai 33 ans, je suis en plein dans une démarche d'avoir une famille, tout ça. Et je suis beaucoup plus touché par les enfants
Oui, que
aussi.
ça se
Peut-être,
devine.
mais bien sûr,
Parce
sûrement.
qu'en vous en parlant, c'est
Mais
exactement ce qu'on ressent quand on est père aussi.
je trouve que vous l'avez très bien ressenti, ça, mais parce que simplement que bon ben pour moi un livre, ce n'est pas comme je vous l'exprimais, c'est simplement le résultat d'une aventure que j'ai vécue, c'est simplement le résultat de ma vie qui passe. Et bon ben ce livre, pour moi, c'est l'empreinte de quelques mois de cette année qui sont passés. Et c'est normal qu'il reflète la mentalité, l'état d'esprit que j'avais pendant ces mois.
Mais c'était ça justement qui m'a qui là, je parle de nouveau de l'endroit où nous étions. Il y a un personnage qui a 60 et quelques années que vous avez pris en photo, qui fait le contrepoids, enfin une sorte de contrepoids de ses enfants, parce qu'il a cette sagesse aussi, hein, on le sent très fortement. J'ai retenu que l'image, c'est très bien, on n'a pas besoin d'évoquer plus un portrait, parce qu'au fond, un portrait, il vous dit tout s'il est compris et s'il est senti. Mais l'évolution par rapport à ces enfants, ça me fait plaisir de vous l'entendre, parce que vous avez été obligé de justifier votre âge en même temps. Et c'est ça qui est intéressant.
Bien
C'est
sûr,
le regard qu'on porte à partir d'une certaine époque de sa vie sur d'autres éléments d'intérêt. La sagesse de l'enfant vous touche maintenant, comme la sagesse du jeune homme vis-à-vis des vieillards
La
vous
spontanéité
touchait
de
avant.
l'enfant.
Oui, bien sûr.
Et absolument. Absolument, mais en même temps, il est vrai que surtout pendant ce voyage, j'ai été bouleversé par ces enfants qui venaient, qui étaient complètement nature dans leur réaction, qui étaient très très spontanés, alors que les personnes âgées étaient beaucoup plus difficiles d'approche, parce que il y a toujours cette notion du gringo, et donc il y a un mur important avec les personnes d'âge mûr, d'âge plus avancé, même un adulte ou une personne âgée. Alors que l'enfant lui-même n'a pas encore ces étiquettes et ça ne fait pas encore cette différence. Et du coup, l'approche, non pas qu'elle ne soit plus facile, parce que l'approche avec les personnes âgées a été extrêmement facile au Chili, mais j'ai aussi été particulièrement touché par justement cette spontanéité des enfants.
Vous parlez espagnol?
Je le baragouine, mon épouse est latino.
Make love by numbers, shaking, not stirred. But I hang on your every word. These
Walk Away, c'était David Foster. Vous écoutez Radio Lac en direct du Salon du Livre. Il est 19h30.
Nous avons commencé au bord du Pacifique. Nous avons devant nous 2000, 3000 kilomètres, une route bien droite, un désert incroyable, le plus incroyable que je connaisse au monde. Parce qu'Atacama, ça sort de l'ordinaire, c'est quelque chose qui... Mais il y a quelque chose de curieux, il n'y a pas seulement ce courant de Humboldt, il n'y a pas tout ce qu'on connaît par rapport à cette désertification incroyable de la côte chilienne et ensuite péruvienne. Il y a ce miracle, il y a l'image, par exemple, je le connais bien, Miss Chile, que vous avez mis dans votre livre. La première momie, quand on la rencontre en plein désert, j'en ai connu vraiment en plein désert. C'est-à-dire à l'époque, on pouvait traverser le désert d'Atacama et fouiller soi-même. C'est-à-dire que vous aviez des gens qui disaient, tiens, là, je sais qu'il y a un ancien cimetière précolombien, et vous sortiez Miss Chile. Vous avez bien compris qu'il s'agissait d'une momie en position de fœtus. Bien sûr, il faut la décrire parce que personne n'a la photo sous les yeux maintenant. Mais c'est quelque chose d'impressionnant de penser que tout se conserve. Je dis toujours qu'il ne pleut pas depuis 10 000 ans, ça fixe les choses. Et puis, tout à coup, vous avancez dans le livre, dans l'histoire. La première image, c'est celle de l'intérieur. Vous savez, celle qu'on ouvre le livre et on tombe sur un sujet. Vous avez des morceaux de sel, comme ça, en pointe. Et puis, vous fermez le livre et vous avez des morceaux de glace. Ben, vous avez le titre. On sent la volonté aussi artistique derrière. Et puis, au milieu, il y a une image qui m'a touché parce que je l'aime aussi. C'est la jungle dans les endroits où on ne l'attend jamais. C'est-à-dire se trouver dans des lichens, des choses qui sont complètement incroyables, où on sait qu'il pleut entre 300 et 330 ou 340 jours par année. Et puis, tiens, parlez-moi un peu de vos appareils de photo dans ces cas-là, Olivier.
Les appareils photo, ils ont la vie dure. J'avais préparé un peu mon matériel pour faire cette expédition, parce qu'on allait dans un terrain difficile. Il est vrai qu'il y a une humidité extraordinaire, et on sait bien que le matériel souffre dans ces cas-là. J'avais une boîte étanche qui permettait de préserver le matériel, et j'avais trois boîtiers, dont deux que je gardais en permanence dans ces quatre boîtiers même, que je gardais en permanence dans la boîte avec du silica gel. J'avais mes films, enfin tout était à l'intérieur de cette boîte. C'était pour le camp de base.
Décrivez-moi le tour de la boîte maintenant. Là, on était dans la technique, la crainte du photographe de perdre ses clichés, et maintenant j'aimerais être dans ce couvert d'humidité. J'aimerais que vous me décriviez votre plus belle image intérieure, comme la petite fille de tout à l'heure, avec ses étranges feuilles géantes, et puis vous dessous caché comme sous un immense parasol. Allez-y.
Oui, mon grand, le flash que j'avais en marchant dans cette forêt. Enfin, marchant, c'est un grand mot, parce qu'on devait vraiment y arriver, à avancer pas à pas. Et ça n'a pas été une image, c'était une sensation. Et ça m'a beaucoup impressionné, parce que je ne l'avais jamais vécu auparavant. Avant, j'ai toujours été en montagne. Sur les glaciers ou bien sur les hauts plateaux tibétains. Et là, tout à coup, je me retrouvais dans la jungle, une jungle que je n'avais jamais connue. C'est-à-dire que j'ai essayé de traverser la forêt, et pour faire près de 100 mètres, il m'a fallu presque une heure. Parce que j'enfonçais jusqu'à la taille dans les mousses, je me raccrochais à des branches d'arbres qui étaient pourries, qui étaient couvertes aussi de mousse, et j'enfonçais, elles cassaient, et je rampais dans cette végétation. Et en plus, j'étais sous des arbres, je ne voyais plus le ciel, c'était épouvantable comme sensation. Et pour la première fois, j'ai eu peur de mourir. J'ai jamais eu peur. Je savais que je prenais des risques de mourir sur les glaciers ou les hauts plateaux. Je savais que la mort était là parfois, et ça ne me faisait pas peur. Et là, de rester dans cette jungle, étouffé et puis moisir comme
absorbé.
Cette végétation, complètement absorbé, j'ai eu un sentiment d'oppression. Et c'était, pour moi, c'était tout nouveau.
On a senti la différence entre Miss Chile perdue dans son désert. C'est vrai que c'est un désert affolant aussi.
C'est un désert affolant, mais bon, je suis plus habitué à l'aspect désertique des choses qu'à cette abondance de nature qui nous bouffe complètement.
Et on a l'impression de pénétrer dans un ventre étrange, non ?
Épouvantable.
C'est quelque chose d'assez fou. Ça vous prend, effectivement. Oui.
Absolument, et vous n'en sortez pas de cette humidité. Tout est mouillé, vous êtes trempé, vous suintez d'humidité. Vous savez qu'il y a une présence végétale et animale partout. Vous en perdez la tête dans cette jungle.
On en sort, là. On commence à avoir on a des visions de cauchemar.
Et vous devez avoir le regard de tous les côtés, parce que vous devez regarder où vous mettez les pieds et en même temps où vous passez la tête, parce qu'il y a des feuilles de tous les côtés, des branchages. Donc vous utilisez vraiment tous vos sens et vos membres pour progresser dans cette jungle. Votre compagnon qui est devant vous, eh bien, vous le voyez sur 2 mètres et ensuite il disparaît complètement pris par cette végétation. Vous avez le sentiment d'être seul alors que vous êtes en caravane les uns derrière les autres.
Et en même temps, un sentiment d'impuissance terrible, parce qu'on sent bien que, quoi qu'il arrive, la pluie sera toujours là, et la végétation sera toujours là, et qu'on n'est que de passage, on est à peine toleré dans ces forêts, dans ces jungles.
Ce jour-là, il fait beau, vous prenez un hélicoptère, et vous me faites juste le trajet depuis le Pacifique, parce que les gens ne comprennent pas, on était dans un désert tout à l'heure, vous me parlez d'une jungle épaisse, et tout à l'heure, vous allez nous parler de glace et de hauts sommets. Est-ce qu'on peut juste voir le trajet entre ces trois éléments, parce que c'est un peu le trajet de votre livre aussi?
Tout à fait. Nous sommes arrivés à Santiago, qui est plus ou moins, disons, au centre du Chili, pour simplifier. Et nous sommes allés dans le nord, déjà, pour faire cette expédition. Et c'était une façon de s'acclimater au voyage. Parce que l'on sait que quand on part en voyage, avec le mode de vie que l'on a, ici, chacun est stressé. Et donc, le fait de partir dans le désert au nord, c'était une façon, déjà, de décompresser et de se retrouver en équipe, d'apprendre à se connaître. Parce que nous partions avec une équipe que nous ne connaissions pas au départ. Donc, de partir dans le désert de Atacama, c'était une façon de se créer et constituer l'équipe avant de partir dans le sud du Chili pour faire notre expédition de montagne. Donc nous sommes allés en avion dans le nord, nous avons repris l'avion pour aller dans le sud pour faire cette expédition. Nous avons pris depuis le sud du Chili un bateau qui nous a déposé au pied d'un glacier où nous avons établi notre camp de base. Nous avons traversé la forêt pour arriver au pied du glacier et ensuite longer les moraines, arriver sur le dos du glacier pour rejoindre la calotte glaciaire, qui est un glacier de 140 km de long. Nous avons traversé ce glacier avec des traîneaux, en tirant des traîneaux, pour arriver au pied de la montagne que nous devions gravir.
Après le Yellow Continental.
Après le Yellow Continental.
Mm-hmm. Le sommet, est-ce qu'on peut arriver tout à coup au but, là?
Oui.
Décrivez-moi juste l'image du sommet. Il y a un climat qui m'a paru assez fou, parce que je connais un peu ces difficultés. Mm-hmm. Il y en a une qui a dû vous taquiner, je la connais bien aussi de l'autre côté, c'était le côté argentin. C'est naturellement, on pense toujours à lui, hein. On pense toujours à lui parce qu'il est là aussi 300 et quelques jours par année, c'est bien sûr le vent. Et votre dernière crête, votre dernière arête, oui. J'ai lu à quelque part dans votre livre qu'il y avait 3000 mètres de vide, oui. J'adore ça. J'imagine le vent que vous n'avez pas eu d'ailleurs. Sûrement.
Non, on aurait eu du vent, on n'aurait pas pu faire cette arête. Le sommet en soi n'était pas difficile. Je pense que ça correspond à l'ascension du Mont Blanc par la voie normale. Sauf que ce qui était difficile, c'était l'approche de ce sommet. Parce qu'on devait longer ces moraines, traverser la forêt, longer les moraines, accéder au Yellow Continental, traverser le Yellow Continental avec des traîneaux, tout ça sous la pluie, sous le vent, la tempête qui vous harcèle constamment. On est resté d'ailleurs bloqué au plein milieu du Yellow Continental sous les glaces, sous tente toute une journée, toute une nuit à cause d'une pluie démentielle qui tambourinait sur nos tentes et un vent, un brouillard qui nous empêchait de progresser. Et la difficulté, c'était donc d'arriver au pied du sommet. Et là, on savait qu'on ne pouvait faire le sommet que si le temps se calmait un peu. Et pendant toute l'approche, on n'a pratiquement jamais vu de montagne. Sur les glaciers, on n'a jamais vu où on naviguait. On était à la boussole. Dès que le temps s'ouvre, se découvrait légèrement, on faisait des croquis pour pouvoir revenir à la boussole. Mais on ne savait pas du tout où on allait. On ne voyait pas où on allait. Et tout à coup, au pied de la montagne, au camp 4, on s'est réveillé, il faisait grand beau, il n'y avait pas un nuage. Et là, c'était extraordinaire, parce que tout à coup, on s'est rendu compte du chemin qu'on a fait. You can reach me by a trailway. You can reach me on an airplane. You can reach me with your mind. You can reach me by a caravan. Cross the desert like an errand man. I don't care how you get here, just get here if you can. You can reach me by sailboat, climb a train, swing rope to rope, take a sled and slide down slow into these arms of mine. You can jump on a speedy coat, cross the border in a blaze of hope. I don't care how you get here, just get here if you can. There are hills and mountains between us, always something to get over. If I had my way, surely
but you better make it soon. You can reach me by caravan, cross the desert like an airman. I don't care how you get here, get here if you can.
C'est vrai qu'elle a parlé une fois de désert dans sa chanson. Il faut dire que l'ambiance Lancourt, c'est une ambiance particulière, mais là, vous êtes au Salon du Livre, on est dans la matière, et nous étions au sommet du Mont Saint-Valentin, et il y a une photo encore qui me chatouille les yeux. J'avoue que je ne les regarde pas, je les pense, hein, c'est différent. C'est plus exactement une page d'une double page où il n'y a que du gris.
Oui.
Et au fond,
le yellow continent.
Ben oui, ce même plateau qu'on vient de traverser, on a vu que le climat Patagon, c'était l'idéal pour tout touriste qui se respecte.
Avec un parapluie, oui.
Oui. Et par contre, il y a une couleur, à part le gris, le vert du milieu dont on a parlé tout à l'heure, le blanc du sel du début, il y a une couleur qui revient quand même tout le temps aussi dans cet ouvrage, c'est le bleu. Ça me fait penser à votre cordée bleue. Dites-moi ce que c'est que la cordée bleue.
La cordée bleue. C'est, au départ, c'est un thème qui avait été choisi pour l'expédition. Parce que c'est une expédition particulière. Cette expédition est sponsorisée par des sociétés. Et la société Accor, qui est une société qui détient l'hôtellerie, en tout cas l'hôtellerie française, et Omnium, qui est une société de communication d'entreprise, connue communication financière. Et ces deux sociétés sponsorisaient cette expédition. Et Accor avait, parmi les 80 000 employés qu'ils ont, avait, dans les journaux internes de l'entreprise, avait annoncé l'expédition et avait lancé l'idée de la cordée bleue. Donc, parce qu'il leur fallait un thème pour cette expédition. Et ils avaient annoncé que toute personne de la société Accor qui enverrait sa signature au siège, eh bien, chaque signature serait microfilmée et mise à l'intérieur du piolet, et que l'expédition irait porter ce piolet au sommet du Mont Saint-Valentin. En fait, c'était ça le but de notre expédition. Et au départ. Et évidemment, cette expédition faisait rêver beaucoup de gens, en tout cas aussi au sein de cette entreprise. Et il y a eu 15 000 signatures qui ont été renvoyées, qui ont été microfilmées, qui étaient dans le piolet que nous portions au sommet.
Comme pour le Sherpa, vous allez leur offrir à chacun un livre, naturellement.
Oui, à discuter avec la société Accor, oui.
Non, mais revenons peut-être... C'est vrai que j'ai terriblement envie de voir des images. Là, je viens d'en ouvrir. Tiens, on laisse le livre s'ouvrir. Il y a de l'eau, il y a du gris, il y a un petit glaçon, comme vous l'avez d'habitude dans votre verre de scotch. Mais la différence, c'est qu'il doit bien faire, je sais pas, 10 ou 15 mètres de longueur.
Oui, c'est ça. Mm-hmm. Oui, un iceberg qui s'est détaché du Mont Saint-Valentin et du glacier.
Est-ce qu'on peut y être un moment, vous me baladez un moment là sur ces eaux de...
On est dans la lagune. On est dans la lagune. Le bateau nous a déposé sur une berge. Et on se retrouve un peu déboussolé parce que tout d'un coup on a quitté le monde, enfin le monde des humains, on est un peu dans un monde végétal complètement. On est sous les nuages puisqu'on est au bord du Pacifique et il y a une pluie constante, ça n'arrête pas. On a un débordement de végétation, on ne sait pas du tout où on doit partir. On ne voit même pas ces sommets qu'on doit gravir puisque les sommets sont à plus de 70 km d'ici. Il faut marcher, il faut 5 camps pour arriver au pied du sommet. Et donc on se retrouve, le bateau repart, et on se retrouve un peu désarmé face à toute cette nature, avant de se restructurer, d'établir notre camp de base, et de partir dans la forêt, puis sur les glaces pour aller faire notre sommet.
Il y a une autre image qui m'a fait rêver, c'est le lac Saint-Raphaël, et puis au fond, là-bas, et il faut le chercher, hein, c'est justement celui qu'on attend parfois. C'est vrai qu'il y a peu de mers qui font autant rêver que le Pacifique, et il y a peu de côtes aussi affolantes que les côtes du Chili ou les côtes du Pérou. C'est-à-dire, les gens ne savent pas ce que c'est qu'une épine dorsale quand ils n'y ont pas touché. Je veux dire, quand on voit cette espèce de cascade incroyable qui part, comme votre Saint-Valentin, de 4000 et quelques mètres, mais certains sommets montent à 6 ou 7000 et tout le monde le sait, la Concagua, etc. Et vous avez cette plongée absolument folle sur le Pacifique, puis quelques petites vallées de rien du tout, comme notre glacier, comme un simple cours d'eau qui vient se jeter, ou ne pas se jeter, parce qu'il s'est déjà perdu dans le sable et qu'il s'est annulé, qu'il s'est perdu dans l'évaporation même. Et tout à coup, cette mer incroyable, poissonneuse, vivante. Parlez-moi une fois de plus des extrêmes. On revient sur le sommet du...
Ben, les extrêmes, c'est ce dénuement du glacier sur le Yellow Continental, où il n'existe rien. Ce glacier qui est plat, qu'on ne voit même pas tellement il fait mauvais temps. On est dans le brouillard.
140 km,
oui.
À pied.
Non, nous, on l'a traversée.
Il fallait bien que je vous taquine un peu, mais c'est une belle distance. Hein. On l'imagine sur notre petite carte de la Suisse.
Mais ce qu'il y a, c'est que vous ne voyez pas où vous allez. Donc vous ne savez pas si vous êtes sur le bon chemin. Vous ne faites confiance qu'à votre boussole et aux éclaircies qui vous situent plus ou moins d'après votre carte. Mais c'est le contraste, c'est donc la forêt qu'on a traversée quand le bateau nous a, une fois que le bateau nous a laissé, cette abondance terrible, terrifiante de végétation, et en même temps, tout à coup, le glacier avec comme seul compagnon le vent et la tempête. Et rien d'autre, on ne voit rien, on ne voit même plus où on marche, parce qu'il y a un jour blanc total entre le brouillard et la neige, et le vent qui tout d'un coup vous gifle, vous ne le voyez pas venir, bien sûr, il paraît se cacher derrière les nuages, derrière le brouillard, et puis tout d'un coup il vous saute dessus, il vous laisse tranquille, il vous empoigne, il vous met à terre, vous relevez, vous repartez, et vous êtes seul face au vent, vous êtes seul face au brouillard, et tout à coup, en équipe, on décide qu'on a assez marché, et qu'on va poser notre tente ici sur le glacier, vous n'avez aucune idée où vous êtes, vous ne voyez rien autour de vous, tout est blanc, que de la glace sur vos pieds, et sous vos pieds, et vous décidez de poser votre campement, et puis bon, vous passez la soirée sur ce glacier.
Est-ce qu'on peut être dans ce campement ? Il faut que vous sachiez, enfin, en tout cas, je parle de ceux qui nous écoutent, que Olivier Felmy a vécu cette aventure, et moi, je n'ai vu que quelques photographies, et il n'y a que quelques minutes, quelques heures, que ce livre est sorti comme un bébé, et au fond, il y a des fois une simple phrase qui nous arrête, parce que quand on est voyageur et quand on aime le voyage, on ressent quelque chose. Vous avez parlé de blanc, vous avez parlé de temps, vous avez parlé d'une journée, et puis il y a la nuit, bien sûr, dans votre campement, et on est dans le campement, il y a un certain Jeff, si j'ai bonne mémoire, qui est médecin, qui lui passe, comme vous tous d'ailleurs, plusieurs heures par jour, je crois même, vous avez écrit 5 ou 6 heures, pour fondre ce même blanc, cette même masse étrange qu'est la neige, la glace, pour en faire de l'eau transparente, oui. Pour la boire, pour la chauffer, etc., avec vos petits réchauds à essence.
À essence, mais tout le monde faisait ça. Bon, Jeff était notre médecin, le médecin d'expédition, parce qu'il faut préciser que cet endroit était dans un endroit où il y a un climat tellement pourri qu'il n'y avait pas de secours possible. Donc, on n'avait même pas de radio avec nous, puisqu'on ne pouvait pas être secourable. Et donc,
on a déjà cité 15 001. Il y en avait encore combien? Vous étiez combien pour l'expédition?
13.
D'accord. T'as beau chiffre.
Et donc, Jeff était le médecin d'expédition. Mais il est vrai que quand on arrivait au camp, bien sûr qu'on posait les tentes, on se mettait souvent à 4 ou 5 pour mettre chaque tente, pour les agripper, pour pas qu'elles s'envolent. Et une fois qu'on avait fait un trou dans la neige, qu'on avait plus ou moins enseveli les tentes, ou qu'on les avait accrochées avec les piolets, il fallait tout de suite faire fondre de la neige. Et on passait, par jour, on passait chacun plus de 6 heures à faire fondre de la neige pour boire de l'eau.
6, 24, la marche, 5 heures de sommeil.
Every man thinks he's an island. Every woman on her own. Every child needs some loving. Everybody needs a home. Now we must try to make a better day. We must try to win. Now we must try. What is a soul? What is a soul without a home? What is a soul? What is a soul? What is a goal? What is a goal without a star? We won't live forever, but to make it better.
Je reprends un glaçon, je le fais fondre comme vous nous l'aviez indiqué. On a soif, c'est vrai, on a chaud aussi, bizarrement. C'est-à-dire qu'on
quel effort.
Bien sûr, on marche hein, dans notre histoire. Là, j'ai dit 140 km tout à l'heure, vous êtes trompé d'angle, c'est pas grave, mais quel était votre temps de marche ou plutôt votre distance? Là, je parle de glace, hein. On piétine plus dans la jungle de tout à l'heure.
La distance, je vous disais, entre le camp de base et le sommet, à vol d'oiseau, il y avait plus de 70 km. Mm-hmm. Mais c'est difficile de dire quelle distance on pouvait faire par jour parce que tout dépendait du terrain, du vent. Quand on a remonté le glacier, on était dans les moraines, on allait très lentement parce qu'il fallait trouver un passage dans la moraine. C'était très dangereux, il y avait des cailloux, des blocs très instables. Et donc là, on allait doucement. Par contre, sur le Yellow continental, si le temps n'était pas trop déchaîné, on pouvait avancer. On pouvait faire 30 ou 40 km. Un jour, on a beaucoup avancé. Mais le lendemain, toute la nuit, il a commencé à pleuvoir très très fort. Le lendemain, il pleuvait tellement fort qu'on ne pouvait pas bouger. Et donc là, on est resté bloqué toute la journée sous tente.
Ça en fait des images que vous n'avez pas pu prendre.
On ne peut pas tout prendre. Il est vrai qu'on peut partager par le récit, mais il faut préciser que cette journée que l'on a passée sous tente, pour moi, c'était une des plus belles journées. C'est-à-dire d'être bloqué sous une tente dans cet univers complètement hostile et complètement
perdu.
Quelle
couleur la tente ?
Elle grise. Grise et jaune.
J'ai l'impression d'y être. Hein.
et en fait, d'être dans son divet, c'est vrai que c'était pas facile parce qu'on était complètement trempés dans nos tentes. On baigne tellement dans l'humidité depuis des jours que on vous glissait dans votre sac de couchage, c'était comme se glisser dans un gant de toilette.
13 gris trempés.
Oui. Mais bon, vous faites avec finalement, on s'y habitue à ce vent, on s'en fait compagnon presque. Et rester une journée sans bouger dans une tente, dans un duvet, à écouter la pluie battre votre tente, avec un sentiment de peur et de sécurité, parce que cette tente, c'est un peu votre nid, c'est ce qui vous protège. Sans elle, vous êtes mort. Et en même temps, vous savez qu'à l'extérieur, il y a un désert de glace, un désert de nature hostile. C'est en même temps ce sentiment de paix et de colère qui est fantastique à vivre. J'ai adoré cette journée sous la pluie.
Il y a un disque que j'ai entendu aujourd'hui qui s'appelle « Voyage immobile ». Et c'est vrai que c'est un disque qui sort un peu de l'ordinaire, parce que c'est un titre que vous venez d'évoquer dans votre tente. Et au fond, on ne fait que ça depuis le début. On est parti sur quelques pages de papier. Surprenant dans son glaçage, en tout cas. C'est une nouvelle méthode, d'après ce que je remarque. Hein. Un beau pelliculé, donc ça, c'est la technique. Mais dès qu'on a passé à travers cette pellicule, on fait un voyage immobile. Et là, dans votre tente grise, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gris dans ce livre. La couverture est un peu gris-bleu. J'ai une jeune femme aujourd'hui, parce que vous avez compris que nous sommes au Salon du Livre et qu'on vient de terminer la première journée, c'est la première fois que les gens regardent votre livre. Il y a une jeune femme qui est tombée sur votre carte de l'endroit où on finit sur le Mont-Saint-Valentin, et cette carte est d'un mauve étrange. Et elle regardait la couverture en disant « J'ai jamais vu un gris-bleu comme ça et un mauve comme cela ». Vous voyez ce que je veux dire ? Mm-hmm. C'est qu'après s'être un peu lavé les yeux à travers le livre, elle avait gagné du gris. Mm-hmm. Et elle voyait les choses différemment. Il y avait des camailleux, il y a des choses très curieuses. C'est un livre très, très camailleux. On peut encore le voir un instant ?
Tout à fait. On n'a qu'à continuer dans le cheminement de cette expédition. En fait, on a traversé le Yellow Continental pour arriver au pied du sommet. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a eu tout d'un coup pas un nuage. Et pour la première fois, on a vu les sommets qui nous entouraient.
Vous savez pourquoi ?
Non ?
Cordée bleue. Oui.
et on a vu la montagne qu'on allait gravir. Mm-hmm. Et là, on a une chance extraordinaire parce que sans ce beau temps, on n'aurait pas pu faire le sommet. C'est-à-dire qu'on aurait fait tous ces efforts pour arriver au pied du sommet sans pouvoir le gravir. Et il est vrai qu'on est parti, on a marché près de 22 heures pour faire le sommet. Et on est parti donc dans la nuit. On est arrivé au pied du sommet, il a fallu gravir des arêtes qui n'étaient pas extrêmement raides, mais enfin si on tombait c'était terminé, c'est sûr. Mais d'un côté il y avait 3000 mètres de vide qui avaient plongé vers le côté argentin.
J'y pensais, je les sentais là.
De l'autre côté on avait 300 mètres de pente abrupte en glace vive. Et il est vrai que si ici on avait eu du vent comme on avait eu les jours précédents, jamais on n'aurait pu passer, c'était beaucoup trop risqué. Et donc, on a une chance extraordinaire pour faire ce sommet. Et moi surtout pour les photos, parce que j'étais engagé en fait pour faire un livre, pour faire ce livre qui devait être le résultat de cette expédition. Et j'avais peur de ne tomber que justement dans la tempête, de ne devoir faire un livre que sur la tempête. Mmh. Et tout à coup, j'ai eu la chance d'avoir le beau temps, d'avoir un ciel qui s'est découvert et d'avoir des crépuscules et des aubes qui étaient dehors, de bronze. Et pour moi, ça a été toute la beauté, la richesse, l'apothéose de cette expédition. C'était de terminer ce sommet dans des couleurs aussi fantastiques.
On le sent un peu par rapport à... Tiens, il reste un peu de neige là, à l'intérieur du livre, c'est superbe.
on le sent un peu en voyant ces quelques photographies, parce que vous avez un côté qui est encore gris, le gris dont on parle depuis le début, et tout à coup cette illumination sur la droite, vos 3000 mètres en miroir pratiquement, il y a aussi un peu de noir en dessous, on se dit bien qu'effectivement il n'y a pas que de la neige, il peut y avoir quelques rochers. C'est vrai que chaque fois qu'il y a ce morceau de crête à quelque part, en montant ou en descendant d'ailleurs, on a l'impression qu'il y a un petit côté miraculeux dans le fait de l'avoir vécu comme ça.
Tout à fait, on l'a vécu comme quelque chose de miraculeux, parce qu'on n'arrivait pas à y croire qu'il fasse aussi beau temps, qu'il n'y ait pas un nuage. Et en même temps, quand on a quitté le sommet, qu'on a commencé à descendre, on a senti le vent se lever. Et quand on est descendu ensuite après l'arête, le vent a commencé à se relever plus fort. Il y a eu des rafales de vent qui soulevaient la neige sur l'arête. On savait que ça devenait très limite pour passer. Nous, on était déjà passés. Mais on se rendait compte qu'à quelques heures près, le sommet était devenu inaccessible. Et en arrivant au camp 5, le ciel s'est zébré. Dans la nuit, il a commencé à faire mauvais. On a eu le temps de descendre au camp 4 au pied de la montagne. Et là, ça a été la tempête, mais vraiment la tempête, où on était obligé de repartir parce qu'il fallait regagner le camp de base à temps. Mais c'était une nature mais déchaînée, comme si le sommet se vengeait tout à coup. Et on a pris conscience de notre chance, mais extraordinaire, parce que on n'a jamais calculé d'arriver, d'après une météo, d'arriver au pied de ce sommet ce jour-là. Et à quelques heures près, on n'aurait pas pu faire cette montagne. Et quand on l'a quittée, à quelques heures après avoir fait le sommet, eh bien, de nouveau, la montagne se déchaînait et elle nous rejetait.
Je peux vous dire que c'est encore plus extraordinaire quand on voit une photo. On peut y aller même dans le temps à travers votre livre. Je viens de voir glisser la lune. Elle... Laissez-moi fermer les yeux. Elle... C'est à gauche ou à droite, le D ou le C? Écoutez, elle est comme ça, donc elle croit.
Oui,
c'est une lune qui croit, et vous étiez justement là, à l'heure où tout était visible.
Tout à fait.
Et vous terminez pratiquement en catastrophe. Est-ce que vous vous rappelez maintenant, parce qu'il faut, redescendre 4000 mètres, vous nous avez dit, c'est pas très haut, mais dans les Andes, c'est toujours trop haut. Et maintenant, quand on redescend, vous allez retraverser votre...
Le yellow, c'était ça la difficulté du sommet. En plus du mauvais temps, c'était, enfin, de faire le sommet, c'était surtout le retour. Parce qu'on allait donner toute notre énergie pour faire ce sommet, mais il fallait malgré tout savoir se préserver pour le retour. Et ça, c'était un peu une angoisse qui tenait un peu chacun, parce qu'on ne savait pas si on aurait la force de revenir si la tempête vraiment se levait. Et là, pendant les 2 jours sur le Yellow Continental, il a fait un temps épouvantable, mais vraiment épouvantable, où on était trempé, imbibé d'eau. On naviguait à la boussole, on avait mis des balises pour se repérer, mais parfois on ne les trouvait plus. On essayait de deviner nos traces de l'allée, mais on ne les voyait pas. Et pour moi, c'était ça la vraie difficulté de cette expédition, le retour.
Et si on y retournait ?